paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1. Tous les lundis, on débriefe une actualité, un grand prix, toutes les infos de la planète Formule 1. Vous le savez, désormais, vous êtes habitués. Abonnez-vous au podcast, c'est super important. Une petite note aussi des commentaires. Je vous rappelle que ça fait vivre le paddock RMC. Ça nous permet de continuer à vous proposer des épisodes chaque semaine. On est dans une phase de un peu de vacances, hein, puisque le prochain grand prix aux États-Unis à Austin, ce sera le week-end du 10 octobre. Jusque-là, on va essayer de se plonger un petit peu dans les coulisses de la Formule 1 et on vous en a parlé ces derniers temps. On voulait se faire un épisode 100% alpine parce que ça se rapproche, le coup près risque de tomber. On se dirige vers la fin de la Formule 1 en France. C'est un choix de Luca De Meo, le patron de Renault, de Flavio Briatore aussi, qui a récupéré un rôle dans l'écurie alpine. On va analyser tout ça avec les ingénieurs du paddock RMC. Il est là, il revient tout droit de Moldavie, celui-ci. Salut Louis Gerbier.
Salut Nico, je suis allé voir les moteurs là-bas.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a des voitures un peu là-bas, ça.
Ah ouais, j'ai vu quelques Lada, tu vois, c'est.
Bah oui.
C'est plaisant. Et puis de la Dacia, alors là, de la Dacia, il y en a autant que tu veux.
Et on a fait venir un invité de marque que vous avez bien connu sur RMC. Il a commenté les Grands Prix avec Jean-Luc Roy. C'est Denis Chevrier, qui est l'ancien boss de l'usine de Viry-Châtillon, responsable du moteur de Renault. Salut Denis.
Bonjour à tous.
C'est un plaisir de t'avoir dans le paddock, Denis.
Un honneur même.
Oh là, oui. Moi, ça me fait bien plaisir aussi de vous retrouver. Donc. C'est parfait, même si c'est pas pour faire des cocoricos à tout va, hein, malheureusement.
Ah, ça c'est sûr qu'on aurait préféré t'avoir pour un sujet un peu plus sympathique, oui, à analyser. Mais on va tout de suite se plonger dans l'actu, dans ce qui se passe chez Alpine. C'est parti pour le paddock RMC.
Le paddock RMC.
Bon, déjà Louis, on va un peu revenir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Aujourd'hui, on est lundi 30 septembre, au moment où on enregistre, c'est une journée importante parce que il y a un vote qui a lieu à l'usine de Viry-Châtillon pour savoir ce que va faire tout simplement le groupe Renault. Est-ce que le plan de transformation d'Alpine Racing va être validé? Le personnel d'Alpine a proposé au groupe Renault quelque chose pour essayer d'exister après 2026. Vous savez que la grosse tendance, c'est que Renault ne soit plus motoriste de l'écurie Alpine pour à partir de 2026. Ça serait probablement une unité Mercedes qui équiperait les voitures Alpine. Et du côté de Viry, on essaie de se battre, Louis. On va pas se mentir, la tendance n'est pas hyper bonne.
Non. On pense même qu'on est arrivé à un point de non-retour. Là, ça devrait normalement. On n'est pas à l'intérieur de la réunion, mais normalement, c'est la fin. Donc c'est un virage incroyable pour cette écurie et la suite du coup va être sombre. Et alors il y a deux aspects, il y a l'aspect émotion, l'aspect cocorico franco-français et puis l'aspect purement sportif, la course. De ce côté-là, c'est peut-être pas tant une mauvaise idée puisque malheureusement le power unit de Renault n'a pas été au niveau sur les 2-3 dernières réglementations. Renault est revenu en 2016, il y a 8 ans, en Formule 1. Et c'était pas du tout le plan. Le plan, c'était d'être déjà peut-être de nouveau champion du monde ou au moins de se battre pour le titre. Et il n'y a pas une seule saison où ça a été vraiment le cas. Après, sur le volet de l'histoire, de l'affect, de tout ça, c'est dramatique. C'est dramatique puisque c'est la fin de Renault F1. Même si le nom Alpine restera en 2026, Renault F1, ça c'est fini potentiellement ce soir et c'est hyper triste.
Justement, Denis, on voulait t'avoir pour parler de ce sujet-là. Toi qui as vécu les grandes heures, bien évidemment, de Renault Sport, dans quel état d'esprit t'es alors que c'est la fin, tout simplement? Nous, on a l'impression, une vraie impression de gâchis. On imagine que tu partages ça.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est le premier mot, c'est du gâchis, du gaspillage. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas honnête du tout. Et c'est ce qu'il y a de plus révoltant. C'est-à-dire que c'est toujours... Il y a quand même des choses qui sont assez remarquables. Pas plus tard qu'hier, il y a Marc Marquez, qui sait quand même ce que c'est que le sport mécanique, qui casse en course, ça n'arrive plus en MotoGP. Et ses premières paroles, c'est « on gagne ensemble, on perd ensemble ». Bon, voilà, je crois que ça veut tout dire. Alors que c'est quelqu'un qui pouvait encore, sur le papier, espérer être champion du monde ou en tout cas se bagarrer jusqu'au dernier Grand Prix pour espérer l'être, ben voilà, c'est tout. Il y a de l'honnêteté là-dedans. Et c'est vrai qu'on gagne ou on perd ensemble. Donc quand dans une équipe, il y en a qui sont capables de montrer du doigt les autres pour expliquer qu'on ne gagne pas, voir qu'on fait d'année en année des saisons de plus en plus misérables, ça n'est pas honnête. C'est jamais comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des torts, s'il y en a, ils sont nécessairement partagés. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une décision à l'emporte-pièce qui est prise, à savoir, on montre un responsable. C'est d'autant plus facile qu'il n'y a pas une autre écurie, pas une seule autre écurie qui est équipée de ce moteur Renault.
Eh oui.
Donc, c'est facile de dire le responsable, c'est le moteur. Mais bien évidemment, vu que c'est la chose qui n'est pas partagée par aucune autre personne. On ne peut pas accuser les pneus, toujours ont les mêmes, tout le monde a les mêmes. On ne peut pas accuser les pilotes parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient désespérément plus mauvais que les autres. Donc, ben, il faut trouver quelque chose. Et ça, c'est le jeu historique de l'équipe d'Enstone, de minimiser la performance du moteur.
Donc, quand ça, Denis, c'est important ce que tu dis. Il y a une vraie lutte fratricide entre Enstone et Viry Châtillon. Toi, tu l'as ressenti, tu le ressens.
Passé. Pour moi, c'est le résultat, on l'a devant nous. C'est qu'à un moment, il faut voir que, de ce que j'ai connu moi, là encore, le monde professionnel change, l'investissement des gens pour leur entreprise change peut-être aussi, etc., etc. Mais ce que j'ai connu, c'est des gens qui étaient chez Renault F1, qui étaient des gens pour lesquels l'entreprise Renault représentait quelque chose parce qu'elle leur offrait une possibilité unique professionnellement en France de faire ce qu'ils voulaient le plus faire, c'est-à-dire de la Formule 1. Donc, il y avait nécessairement du respect pour cette entreprise et la meilleure façon de rendre à cette entreprise la chance qu'elle nous donnait d'exercer au plus haut niveau en Formule 1, c'était de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'était le groupe Viry-Châtillon de l'époque, Bernard Dudot, Jean-Jacques, Jean-François Robin, etc. Et en face de nous, alors heureusement, il y a eu toute une période avec Williams, etc., où là, on était vraiment dans le « on gagne et on perd ensemble ». Et puis après, il y a eu toute l'époque, dans la mesure où, à partir du moment où il y a eu ce partenariat qui s'est appelé Benetton, by Renault, etc., etc., et que sur les bases de l'ancien Benetton, l'écurie Renault s'est faite, on a trouvé de l'autre côté des mercenaires. C'est-à-dire des gens qui n'en ont rien à faire, que ça s'appelle Renault ou pas Renault, et qui sont là pour eux, eux-mêmes, personnellement. Et à partir de ce moment-là, la chose qui compte, si ça gagne et que ça se passe bien, ça va. Et s'il y a les moindres soucis, l'objectif, c'est d'essayer de montrer du doigt quelqu'un d'autre pour que si un coup près doit tomber et qu'on se retrouve à perdre la bonne gamelle, eh ben, ce ne soit pas soi, bien évidemment. Donc, quand, pendant des années, on n'a pas de l'autre côté des patrons moteurs qui sont capables d'essayer de faire valoir que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et ben petit à petit, on finit par tirer vers le bas et faire un responsable désigné.
Mais alors moi, je te pose la question, Denis, et la question, elle est franche. Est-ce que le moteur est le grand responsable des perfs d'Alpine, selon toi? Est-ce qu'il y a une défaillance? Est-ce qu'on n'a pas été bon?
Mais bien sûr que non. Il n'explique pas tout. C'est pas ce moteur, même en admettant qu'il soit un peu en retrait par rapport au tout meilleur. Mais bon. Donc, après, un peu en retrait, ça veut dire quoi? Parce que si on estime qu'il a 8 kilowatts de moins, ou enfin une dizaine de chevaux de moins que les autres, etc. Mais ça ne veut pas tout dire. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un moteur qui accepte de tourner 3 degrés de plus en température qu'un autre, eh ben, c'est un avantage pour l'aérodynamique. Il y a mille choses. C'est-à-dire que dire que un moteur... Et disons que ce qui est quand même troublant, c'est que... Alors, c'est vrai que les écarts, maintenant, ne sont plus non plus colossaux. Il se trouve qu'ils sont toujours dans le même ordre, mais on ne parle pas de 3 secondes d'écart, c'est bien évident. Donc, il suffit de pas grand-chose pour ne pas réussir à se mettre tout devant le championnat. Mais quand même, ça n'est pas possible que ce soit... un exemple, on a entendu dire, ce sont une fois encore des témoignages, des informations... qui ressortent petit à petit, etc. On a quand même entendu dire que l'Alpine a commencé la saison au-dessus du poids.
Oui.
Bon, quand on entend ça en tant que technicien, honnêtement, on tombe à la renverse. Il n'y a rien de plus facile que de suivre dans un projet le poids du résultat final. N'importe qui sait faire des additions sait quel poids on aura quand on réunira toutes les pièces d'une voiture.
Ça peut être mon problème, les additions, Denis, je ne vais pas te cacher. Mais bon, ça... vas-y, poursuis. Bon.
Poursuivons. Bon. Mais il y a des gens qui s'appellent des chefs de projet et dont notamment l'une des tâches, c'est de s'assurer qu'on a une feuille de route pour... l'ensemble des pièces qui va faire au moins, s'il y a au moins une chose qu'il faut faire, c'est faire une voiture au poids.
Ouais.
Qu'il manque 3 kilowatts ou 8 ou 10 ou 20 chevaux parce qu'il y en a qui ont mieux travaillé que vous, parce qu'ils ont eu plus de moyens, parce qu'ils ont trouvé une idée, un truc, un gisement de perfo et qu'au sortir de l'hiver, il y en a qui sont plus performants que les autres, c'est le propre de la compétition. Mais qu'on ne sache pas faire une voiture au poids, moi, je suis tombé à la renverse. Comment une équipe comme ça, qui est capable de faire ça, peut espérer avoir sa place devant dans le championnat du monde 2024? Ce n'est pas concevable.
Oui, ce que tu veux nous dire, c'est que des défaillances, il y en a eu dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité.
Et si la voiture n'est pas au poids... C'est pas parce que le moteur embarque 5 litres d'eau de plus que l'autre, que tous les autres, parce que... etc. Parce que faut pas... Un moteur de Formule 1, c'est extrêmement complexe. Je vous parle de, par exemple, la quantité d'eau qu'il y a dans un moteur. Eh bien, typiquement, un moteur, on va dire, s'il fait 95 kilos, si pour fonctionner... il faut lui mettre 8 litres d'eau dedans ou s'il lui en faut mettre que 3, et ben au final, il y a une auto qui pèsera 5 kilos de plus pour qu'elle soit en ordre de marche.
Bon, ouais, c'est sûr.
C'est ça qui s'appelle un projet. Donc, une Formule 1, c'est extrêmement compliqué. Et dire, nous, on fait un bon châssis, ça fait des années qu'ils font peut-être une voiture de merde, et ils disent que le responsable, c'est le moteur, et ils trouvent une oreille... tout à fait compatissante qui est celle de Flavio Briatore, parce qu'il aime bien ce genre de situation.
Et ben on va en reparler de Flavio, parce que t'as bossé un peu avec lui. Enfin,
on met le malheureux moteur sur l'échafaud. Je ne dis absolument pas que ce moteur n'a pas des défauts. Bien évidemment, certainement qu'il en a. Mais c'est d'autant plus difficile aussi pour lui de ne pas en avoir. Qu'il n'évolue que dans une seule voiture. Alors que les Mercedes, ils ont plusieurs écuries. Et Ferrari, ils ont plusieurs écuries. Honda, ils ont plusieurs écuries. Une écurie égale d'autant plus d'occasions d'apprendre, d'autant plus d'occasions de découvrir des petits problèmes d'infiabilité, de découvrir des petites imperfections de fonctionnement. On a 4 interlocuteurs, on a 6 interlocuteurs, on a 8 interlocuteurs, ingénieurs, pilotes, etc., etc. Bien évidemment qu'on progresse plus que si on est en vase clos, complètement enfermé, avec toujours les mêmes interlocuteurs, et, etc. Bien évidemment que ce n'est pas un gisement, ce n'est pas un vecteur de progrès et de développement.
Mais je vais me faire l'avocat du diable. Juste, si finalement aujourd'hui Renault n'a plus d'écurie cliente, si Red Bull les a quittés, c'est peut-être qu'au fond, tout le monde est un peu d'accord sur le fait qu'il est un peu en retrait, ce moteur, ces dernières années, non ?
Disons que là aussi, le procès d'intention qui était fait au moteur à l'époque de Red Bull, il n'y avait pas d'autre écurie.
Oui, c'est vrai
qui
aussi.
Il l'avait.
Donc, t'as raison.
C'est lui. C'est lui, bien sûr. Mais ce sont les mêmes qui, déjà à l'époque Red Bull, c'est un peu le même genre de démarche. C'est et aussi parce que être le patron d'une écurie de motoristes, c'est un boulot difficile et il faut réussir à se faire respecter.
Ouais. Et ça,
donc,
c'est vrai
si
que
petit à petit, on se fait marcher dessus, et ben, on laisse la porte ouverte à un beau jour se trouver avec le cou mis sous la guillotine.
On a eu du mal à trouver un patron fort qui incarnait, c'est vrai, cet esprit écurie motoriste. Je vais quand même vous donner des chiffres, mais depuis que Renault est en Formule 1, 169 victoires, 213 pole positions, 23 titres de champion du monde en Formule 1. L'usine de Viry, c'est à peu près 1500 personnes, je crois un peu plus de 1500 personnes, Denis. Donc voilà, c'est quelque chose de colossal. Ils ont essayé de se battre jusqu'au bout, Louis, en essayant de proposer quelque chose, parce qu'en fait, en gros, Renault a décidé de laisser tomber son programme moteur. Ils ont décidé de mettre à la poubelle tous les développements qui avaient été faits pour 2026. Donc ça a été une vraie stupeur chez les salariés de voir que ce qu'ils mettaient en place pour réussir à retrouver de la performance en 2026, franchement, on casse tout le programme, quoi, on laisse tout tomber.
Je pense déjà, humainement, tout ça, ça a dû être hyper violent. En plus, on a appris dans la presse, justement, qu'à Viry, ils avaient appris ça également dans la presse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu en liminaire la possibilité de le savoir en privé ou en interne. Donc, un jour, tu ouvres ton journal avec ton café, prêt pour partir au boulot à Viry, et t'apprends que, en fait, ça se trouve, dans 6 mois, c'est fini. Et les chiffres que tu as dit, tu te rends compte, on parle d'une institution. C'est 1500 salariés, c'est des titres et des titres, c'est dingue. Moi, pour moi, tu sais, mon père, il me disait toujours, Renault, un jour, ils sont arrivés dans un monde de moteurs atmosphériques avec une idée, ça s'appelait un turbo, on les a tous pris pour des fous, et ils ont expliqué à tout le monde ce que c'était qu'un moteur, et ils ont révolutionné le sport. Enfin, tu vois, c'est quand même... moi, j'ai jamais été fan de Renault, les voitures qu'on voit en ville, tu vois. Mais Renault F1, quel nom, quoi, ça claque. C'est dramatique, surtout que y a potentiellement beaucoup de gens qui vont être sur le carreau. Et surtout, ouais, c'est vraiment un monument qui va disparaître, quoi. C'est pas des gars qui sont arrivés en 2016, quoi. C'est vraiment Viry, c'est des années et des années, c'est 50 piges, quoi. Donc c'est terrible.
Ouais, l'usine, c'est plus de 1500 personnes, mais après l'arrêt du programme, ça concernerait 350 salariés un peu plus spécifiquement.
Ouais, c'est ça, 350, mais bon, déjà...
C'est colossal, c'est colossal. Denis, pour toi, ça marque... Enfin, en fait, on a du mal à se dire que il y aura de nouveau de la Formule 1, du sport méca de très très haut niveau en France après, parce que c'est un énorme échec, ça, quand même. Ce qui est en train de se passer, va falloir que tu nous parles aussi de Flavio Briatore, ce personnage sulfureux avec qui t'as bossé, avec qui je crois que ça a pas super bien matché d'ailleurs, bizarrement. Mais c'est la fin de la Formule 1 en France, Denis, en fait, là.
Ça y ressemble quand même beaucoup. Au titre, surtout, que prendre une décision comme ça, ça donne l'impression que ceux qui la prennent ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour bâtir une équipe. Et là, tout d'un coup, on décide de la couper. Il n'y a pas besoin d'aller très loin en France pour se rappeler quand même comment Peugeot, qui était engagé en championnat du monde d'endurance, a décidé un beau jour d'arrêter son engagement en endurance, de se retrouver avec l'équipe qui se dispersait de partout dans la nature et que les gens apprennent qu'on n'allait pas faire la saison qui venait. Ils l'ont appris quand ils étaient à l'autre bout du monde, partis pour faire des essais. Et c'est une fois arrivés là-bas qu'ils ont appris qu'ils pouvaient rentrer parce que Peugeot arrêtait de faire le championnat du monde d'endurance. Donc, la grande classe en France, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça avait déjà été la même chose. Bon. Donc, et ça fait que je pense que maintenant, Peugeot qui essaye de revenir en endurance s'aperçoit ce que c'est que d'avoir décapité une équipe et d'essayer d'en faire une autre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il domine vraiment le championnat en ce moment.
Ben ouais,
donc,
clairement.
C'est le mal, je dirais, de patrons qui prennent des décisions avec leur porte-monnaie. Le porte-monnaie d'aujourd'hui. Ouais. En se disant, bon ben voilà, on regarde les comptes, les machins, il y a un tel qui me dit que si je mets 16 millions sur la table tous les ans, j'ai un moteur pour faire de la Formule 1. Là, ça me coûte 10 fois plus cher. Je suis plutôt du genre à essayer de faire des économies qu'à investir massivement. Donc, la Formule 1, finalement, c'est quoi ? Bah, c'est devenu un joli show planétaire, mais la technologie est tellement compliquée qu'à part quelques forcenés, on réussit à intéresser personne avec ça, tellement c'est compliqué. Donc, finalement, faisons au moins cher. Et comme, si on fait de la bonne com, on arrive à faire avaler un peu n'importe quoi aux gens maintenant, bah finalement, pourquoi s'emmerder à faire un moteur de Formule 1 quand on se fait le chantre de l'électrique, du machin, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on décide, et ben on arrête. On va prendre un moteur, client. Mais après, la vraie question... C'est pourquoi continuer à faire de la Formule 1 dans ces cas-là, si on n'a plus rien à montrer,
ben oui.
Si ce n'est une paire d'ailerons qu'il faut passer des heures de soufflerie et de CFD, engloutir des millions pour faire des pièces aéro dans tous les sens. Mais ça amuse beaucoup les gens du châssis. Donc eux, ils ont envie que ça continue. Ils ont envie que la Formule 1 continue à exister comme ça. Et si effectivement, pour les gens du châssis, tout le monde avait le même moteur, ça coûterait moins cher et ils s'amuseraient bien entre eux à continuer à tirer le fric des constructeurs qui veulent bien mettre leur nom sur une Formule 1.
Denis, parle-nous un peu, toi, de Flavio Briatore, qui est très contesté, son retour aux Formule 1. On dit que c'est un peu lui qui a été la particule d'accélération là, de cette décision aussi. Toi, ça s'est pas bien passé avec lui. Il faut que tu nous parles un peu de ce personnage quand même et de ce qu'il a fait à Renault à l'époque et de son impact, l'impact qu'il peut avoir dans une écurie de Formule 1.
Bah, disons que le Flavio Briatore, on l'a vu apparaître quand même avec l'écurie Benetton. On ne peut pas dire que ça soit mal passé, vu qu'il a fait de Schumacher un champion du monde. Un Schumacher qui a ensuite montré que il n'y avait pas que Benetton qui lui avait permis d'être champion du monde, mais qui avait aussi son talent. Il l'a maintes fois montré les années suivantes chez Ferrari. Donc effectivement, Flavio Briatore a, d'un point de vue factuel, a été à la tête d'écurie de Formule 1 à plusieurs occasions que ses équipes ont été championnes du monde. Les dernières ayant été 2005-2006 avec Fernando Alonso. Mais exemple typique de Flavio Briatore, qui n'a eu que de cesse, à l'époque justement en 2006, de militer pour un seul manufacturier de pneus, parce que bah, ça coûte trop cher les essais pneus, Martin, machin, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. Bon, donc on milite pour un seul manufacturier de pneus. En ne comprenant pas à quel point le dernier titre 2006 devait beaucoup à la qualité des pneus Michelin pour, par rapport aux pneus Bridgestone qui équipaient la Ferrari. Mais d'une part, c'était des Français et les pneus, ça coûtait cher. Donc, il faut prendre les mêmes pneus que tout le monde. Bon, Michelin, ça ne l'intéressait pas de faire de la Formule 1 avec, en étant l'unique manufacturier. Donc, tout le monde a des Bridgestone l'année suivante. Et bien, curieusement, ça s'est beaucoup moins bien passé. Mmh. Exemple.
Ouais. Hein?
Donc.
Vas-y.
Ouais, donc. Bon, mais c'est. Je dirais. Le Flavio Briatore fonctionne un peu sur la base de commando avec une bande de personnes qui lui sont. Pour lesquels qui sont taillables et corvéables à merci parce qu'ils lui doivent aussi beaucoup, etc., parce qu'ils s'arrangent pour que les choses se passent bien pour eux, etc., etc. Mais ça n'est pas un homme de... C'est pas quelqu'un qui façonne des équipes. C'est pas quelqu'un qui va s'enquérir de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré ici, comment on peut mettre un peu d'huile dans les rouages, comment... Ah, on tient des beaux discours, only one team, mais dans les faits, il n'y a rien qui aide les gens à fédérer vraiment, etc. Donc, parce que lui n'est pas un fédérateur. Un fédérateur, c'est un vrai patron, c'est quelqu'un, c'est une qualité, il n'y en a pas beaucoup, des vrais patrons. Et lui, il ne sait pas fédérer, ça ne l'intéresse pas de fédérer. Il veut faire des coups, il veut faire machin. Et donc, il y est arrivé dans certaines occasions. Et là, il apprécie énormément la Formule 1 parce que ça brille, parce qu'il y a du clinquant, parce qu'on peut se faire valoir. Et il a trouvé des oreilles attentives à quelqu'un qui apportait une solution pour que la Formule 1 Alpine se redresse. Mmh. Et c'est une décision colossale, importante, effectivement. Bah, pourquoi on s'ennuie si on met le budget dans les châssis au lieu de le mettre dans du moteur? On va pouvoir faire encore plus d'aéro. Le gisement de performance dans une Formule 1, c'est l'aéro, donc c'est là-dedans qu'il faut mettre l'argent et il ne faut pas s'emmerder à faire un moteur de Formule 1.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Louis, du coup, quand on entend tout ça, quand on entend tout ça, les amis, là, Louis, c'est quand même... Bon, on le savait, hein, on savait que c'était inquiétant pour l'année prochaine, mais pour 2026, en fait, tu sais... En fait, tu sais pas comment cette équipe elle peut se redresser. Non, mais ouais. Le truc, c'est que t'as beau retourner le problème dans tous les sens, tu peux te dire qu'il y aura peut-être de la compétence, Enstone, je sais pas comment ils vont faire, mais quand tu travailles mal depuis autant de temps, en fait, tu peux pas t'en remettre. C'est pas possible.
Non, et puis en fait, tu puisses t'en remettre ou pas, quand tu imagines le post 2026, tu te dis ouais, mais en fait, enfin, de toute façon, ça sera qu'un sticker Alpine, quoi. Ça sera Enstone, donc. On va se détacher aussi, tu sais, d'un point de vue plus nous, supporters, aficionados de l'écurie française, de la F1 en France, tout ça. Et après, oui, sur la compétition, on ne s'attend pas forcément au miracle. Hein. Après, c'est vrai que quand Denis, ce que vient de dire Denis, il y a un côté, hyper pragmatique finalement. C'est cynique, mais ça a l'air d'être presque... Ouais, c'est une décision de financier, quoi. Il suffit de... Tu regardes tes lignes Excel et tu te dis ça coûte trop cher, ça tac tac, on rationalise et tout. Mais du coup, tu racontes plus du tout la même histoire. Tu c'est fini en fait. Donc ça sera pas du tout pareil après de 2026. Et moi, ce que je trouve dingue aussi, c'est que justement, ça soit une décision de Briatore. Parce que Briatore, tu te dis, il a déjà été finalement lui, il l'a vécu cette histoire. F1, enfin Renault F1, c'est censé être quelque chose pour lui. Et du coup, en fait, ça prouve clairement tout ce que vous dites à sujet de ce personnage. C'est que bah il en a rien à faire de rien. Renault F1, en fait, ça, lui, c'est, enfin, lui, il faut juste qu'on voit ses lunettes au vert bleu le dimanche et il est content, quoi, parce que là, franchement, sa décision, elle est au mieux pragmatique, mais au pire, elle est dramatique et vraiment venant de lui. En fait, tu te dis si même ceux qui sont censés aimer ce que l'histoire de Renault F1, enfin ouais, je m'attendais pas à que ça vienne de quelqu'un qui, tu vois, de limite presque de l'intérieur. Et puis évidemment, faut aussi se rappeler déjà, même que si on veut revenir un peu en arrière, juste son retour, rien qu'en F1 et encore plus chez Alpine, faut quand même rappeler qu'il le quitte par interdiction, suspension après le crashgate de Singapour 2008, où il envoie un de ses deux pilotes dans le mur pour faire gagner l'autre. Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de revoir des personnes comme ça en F1, quoi. Et quand tu sais que derrière, c'est lui le fossoyeur de l'équipe qui l'a fait aussi avoir cette notoriété-là, hein, parce que la, le plus haut de sa notoriété, c'est avec Renault, finalement, Briatore. Ouais. Il auto-enterre une partie de sa gloire aussi. Enfin, bref, ouais, c'est assez dramatique. Et ouais, pour revenir à ta question, parce que je me suis un peu éloigné. Après 2026, moi, de mon point de vue purement perso, moi j'aurais même pas trop envie de les suivre. Enfin, tu vois.
Mais en fait, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, les gars, c'est que ils ont réussi à nous écœurer un peu,
ouais.
à nous désintéresser totalement de ce projet qui était français, avec deux pilotes français de talent, Ocon, Gasly, tu vois, il y avait un truc quand même.
Il y avait clairement un truc, il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein. Tu te rappelles au début du paddock, on disait la voiture elle n'est pas là, mais on est enthousiaste, ça va revenir,
mais
ça va machin.
Putain, c'était bien marketé, il y avait cette histoire de pilote français, vainqueur de Grand Prix, il y avait quelque chose, ça va être le retour de la Formule 1 en France, la Formule 1 qui gagne, et là, mais en 8 mois, mais ils ont tout sabordé, quoi.
Ouais, et si tu rouvres un petit peu le scope, on avait, il y a encore 2 ans, une équipe qui marchait pas trop mal, une équipe motoriste, un Grand Prix, 3 pilotes, dont 1,5-2 qui fonctionnaient et tout ça. Et là, tu fais un jump 2 ans après, et bah il reste les 2 pilotes qui sont tout au fond, évidemment, et bientôt, il n'y a plus de moteur, plus rien, plus de Grand Prix, plus rien. La F1 en France est passée de tout va hyper pas trop mal, voire hyper bien, ça va plus du tout, en un temps record. Et ça aussi, c'est un coup au moral. Enfin, c'est quand toi, moi, en tant que simple supporter, fan de F1 français, ça va plus du tout être pareil demain de regarder ce sport, quoi. On va de fait se détacher un peu, juste parce que on va moins s'identifier, on aura plus notre écurie un peu comme on supporte l'équipe de France en foot, on supporte Alpine en F1, il n'y aura plus ça, quoi. Donc ça, c'est hyper dommage aussi.
Denis, le mot de la fin avec toi ça nous fait de la peine de t'avoir, en fait, pour déjà parler de ça. Mais tu vois, nous, il y a du dégoût un peu dans ce qui ressort de cette saison-là, c'est qu'il y a du dégoût.
Ouais,
quoi.
C'est ça, on a les boules dégoûtées. Ouais.
Heureusement, entre guillemets, que vous avez des boules, ça veut dire que vous étiez derrière ce projet en espérant que ça fonctionne, etc. Vous étiez des vrais supporters de ce projet. Mmh. Je pense qu'il y a une chose que je ne peux pas laisser dire, c'est que Flavio Briatore était un homme Renault. On n'a jamais rien eu à foutre.
Ouais, non, moi, c'est l'image qu'on en a.
La seule chose qui
m'intéressait,
c'était l'argent que Renault mettait dans le système.
Et lui-même,
c'est
je
tout.
Pense.
Et donc maintenant, il re-rentre dans le rôle de celui qui est là pour... Là, il n'est pas là pour gagner, entre guillemets. Enfin, il est là pour faire gagner de l'argent à celui qui continue à vouloir avoir des stickers sur une Formule 1, parce qu'il considère que d'un point de vue mondial, c'est une belle vitrine. Bon, oui, d'accord, certainement, mais peut-être aussi que c'est à partir du moment où on met un moteur Mercedes, peut-être aussi qu'en 2026, ce sera peut-être le bon moment de revendre carrément l'écurie et de se refaire encore un petit billet, vu que là, on parle encore du tableau Excel, comme on le disait tout à l'heure, et puis finalement, c'est encore mieux.
Ouais. Il y aura une certaine logique, en fait.
C'est un peu la finalité de l'histoire, hein, quand même, tu te dis. Hein.
C'est ce qu'on peut craindre. Et après, quand on s'appelle Viry Châtillon, et si on veut continuer à faire des choses intéressantes, il faudrait mieux essayer de se concentrer. Et si on dit, l'électrique, c'est une partie de l'avenir de l'automobile, on fait tout ce qu'il faut pour gagner en formule électrique. Le rallye, qui va avec les règlements qui vont changer. Il y aura peut-être plus d'électrification et on peut aussi imaginer faire un très beau programme avec les R5, rallye, machin, etc. Parce que là, on vend du Renault, on vend des milliers de voitures, on ne vend pas des centaines de voitures comme on vend des Alpines. Enfin, j'exagère un petit peu, mais presque. Là aussi, c'est quand même un peu étonnant. On dit Alpine. Alpine, ça fait rêver des gens au Japon, ça fait rêver des vrais passionnés de voitures. Mais aujourd'hui, si on met son nom sur une voiture, c'est parce qu'on a envie de vendre des Alpines.
Ouais.
Et on ne va pas vendre 10 millions d'Alpines, alors que des R5, on peut espérer en vendre des dizaines de mille. Donc, à un moment, on ne comprend plus rien. Enfin, moi, concrètement, je ne comprends plus rien. Donc, il y a un autre sujet encore. Avant, s'engager en Formule 1 et essayer de démontrer au plus haut niveau sa technologie, c'était aussi un vecteur de fierté à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, je pense qu'on martyrise tellement tous les groupes, tous les chefs de service, tout, etc., avec le tableau Excel et des euros en face, que on ne peut plus avoir de fierté à ce qu'il y a de la technologie qui est montrée, vu qu'au quotidien, il faut qu'on essaye de faire quelque chose de pas trop mal à pas cher.
Ouais.
Donc, il y a tout. Tout, en fait, change. Tout le contexte. Parce que ce que j'ai toujours dit, c'est que la plus grande richesse d'une entreprise, c'est que l'envie que les gens qui sont peuvent avoir d'y être dans cette entreprise. Mais si on décourage les gens, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus rien. Donc Alpine, en ce moment, avec la façon dont se comporte le management, on est en train de tuer l'envie que les gens ont de s'investir au maximum. Or, c'est la richesse de l'entreprise, parce que je ne veux pas croire qu'il n'y ait plus de compétences dans cette équipe-là. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir eu des erreurs de casting pour que pendant des années, on n'embauche que des gens qui ne sont pas bons. Ce n'est pas possible.
Ouais. Donc, merci beaucoup, Denis. Merci, Denis, d'avoir été avec nous. Pour ce paddock RMC spécial Alpine, franchement, on a pu donner quelques explications, on l'espère, à nos auditeurs, qui, comme nous, franchement, doivent être assez dégoûtés de voir que ce projet se termine comme ça. Alors, il n'est pas terminé, ce projet, ça se trouve, ils vont nous surprendre, mais on a quand même du mal à y trouver de l'intérêt. Louis, merci beaucoup. T'as été énorme pour un gars qui revient de Moldavie avec le décalage horaire.
Ouais, sacré décalage.
Ouais, monstrueux. Denis, merci beaucoup.
Merci, Denis, c'était trop bien.
On te retrouve dans le paddock régulièrement. Denis, tu fais partie de la famille RMC. On embrasse Jean-Luc Roy, on embrasse tous les ingénieurs du paddock.
Qui est là-haut. Jean-Luc qui est là-haut, qui est monté là-haut.
Aux États-Unis, en tout cas. Et on embrasse tout le monde. Je voulais vous donner rendez-vous lundi prochain, bien évidemment. Et je voulais surtout vous dire que si vous aimez aussi ces formats-là de podcast, un paddock RMC avec des invités, on va vous en proposer plusieurs là, dans les semaines à venir pendant les pauses entre les Grands Prix. Venez nous le dire, vous commentez, vous mettez une petite note, je vous le répète, mais c'est important pour nous d'avoir vos retours. Et abonnez-vous au podcast, au Paddock RMC, c'est super important ça. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.
Ciao.
Le Paddock RMC.